Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?
Bienvenue sur le plateau consacré au réchauffement climatique.
Sur Radio Bartas, 107 FM.
Et sur Télédrive.
Et ça va chauffer !
Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Bartas et en direct de l'amphithéâtre de Supagro avec nos amis de Télédrive que je salue pour un plateau exceptionnel consacré au réchauffement climatique et je remercie chaleureusement l'Institut Agro pour m'accompagner sur ce plateau, François. Bonjour François.
Bonjour.
Pour Midi Libre et bénévole à Radio Bartas, on va animer cette merveilleuse journée tous les deux, enfin merveilleuse.
Ben oui, on va bien voir.
Bien. J'espère qu'on va pas vous faire trop déprimer. Dans quelques instants, je vous présenterai nos invités ici présents. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout est dit depuis au moins 5 décennies maintenant. Le réchauffement, le changement climatique est avéré. Et je sais pas vous, mais nous, ça nous a un peu surpris à la radio. Un président de la République française en janvier 2003 qui a tenu un discours gravissime. Je le cite, qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires cet été dans notre pays. Alors, face à l'aveuglement de nos dirigeants et peu importe son retentissement, ce plateau radio et télé sur le changement climatique aura pour but de remettre un peu les pendules à l'heure, car nous n'avons plus le temps, François.
Et oui, si on lit le GIEC, le 20 mars 2023, les États membres du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ont approuvé le rapport de synthèse afférent au 6e rapport d'évaluation. Sa conclusion principale est « Un avenir résilient et vivable est encore à notre portée, mais seulement si nous réduisons fortement, rapidement et durablement les émissions de gaz à effet de serre au cours de cette décennie critique, afin de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius avec un dépassement minimal ou nul. Ce billet de blog met en lumière 6 points clés du rapport, ainsi que les principales réactions politiques, notamment les propositions du secrétaire général des Nations Unies concernant un programme d'accélération de l'action climatique mondiale et un pacte de solidarité climatique du G20.
Alors évidemment, on verra les tenants et les aboutissants et ces 6 points, on les rappellera tout à l'heure. Et pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'accueillir Raphaël. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Tu es prof d'histoire et bien, qui aurait pu prédire voici une approche historique. On y va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève.
Histoire brève.
Si on regarde le cas de la France, la moyenne des températures ne cesse d'augmenter depuis 1895. Or, cela correspond aux premières pollutions massives dues à la révolution industrielle du 19e siècle. D'ailleurs, le terme écologie apparaît durant cette période. On le trouve chez un biologiste allemand, Ernst Haeckel, qui essaie de montrer le lien entre les organismes vivants et leur environnement. Il s'inspire du mot oikos, grec, qui signifie maison ou demeure pour créer ce néologisme. Ce terme est peu à peu récupéré par les environnementalistes qui accusent l'industrialisation massive de nuire à notre œcumène à tous, notre planète. Pour les penseurs et les scientifiques qui défendent ainsi l'écologie dans la première partie du XXe siècle, il devient essentiel de prendre en compte les écosystèmes dans la pensée économique. Ceux-ci se rassemblent en 1968 dans le Club de Rome qui acquiert une renommée internationale en 1972 quand il publie un rapport intitulé « Les limites de la croissance ». Ce rapport est fondamental car pour la première fois, des chercheurs renommés, membres du MIT notamment, anticipent la pénurie à venir des ressources de la planète et mettent le monde en garde sur les conséquences de l'activité humaine sur l'environnement. C'est dans ce rapport que l'on parle pour la première fois d'empreinte écologique. Parallèlement à ça, a lieu en cette même année 1972 la toute première conférence des Nations Unies dont le thème principal est l'environnement. Ce premier sommet de la Terre place la question écologique au centre des préoccupations internationales. Est adopté aussi à cette occasion en PNUE, un programme des Nations Unies pour l'environnement, qui prévoit entre autres une conférence internationale tous les 10 ans pour faire le point. Il planifie également la première conférence mondiale sur le climat qui a lieu en 1979 à Genève. Un programme de recherche climatologique mondiale y est lancé sous la responsabilité de l'Organisation météorologique mondiale, du PNUE et du Conseil international des unions scientifiques. C'est eux qui sont à l'origine, en 1988, de la création du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, dont le premier rapport publié en 1990 alerte déjà sur la responsabilité des activités humaines dans le changement climatique. Après Stockholm, un second sommet de la Terre a été réuni en 1982 à Nairobi, mais surtout un troisième à Rio de Janeiro en 1992, qui est celui qui entérine le principe du développement durable, notion popularisée dans le rapport « Notre avenir à tous » publié en 1987 par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland. Cette dernière théorise là les grands principes de ce développement sur le long terme qui doit à la fois répondre aux défis posés par la croissance, les inégalités sociales et le respect de l'environnement. Ce sont là les trois piliers du développement durable qui doivent assurer une économie viable pour une société équitable dans un monde vivable. Ce rapport Brundtland sert de base à la conférence de Rio qui adopte 27 grands principes parmi lesquels nous pouvons lire « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. » Est adopté également le fameux Agenda 21, qui est un calendrier pour le siècle à venir, avec diverses recommandations pour limiter les effets de l'activité humaine sur l'environnement. C'est encore à cette occasion qu'est rédigée la Convention sur le climat, qui assure la nécessité de réduire les gaz à effet de serre, principaux responsables d'un réchauffement progressif de la planète. Ce dernier point est d'ailleurs à l'origine du fameux protocole de Kyoto, adopté en 1997, premier texte comportant des engagements contraignants pour les pays signataires, à savoir une réduction de 5% des gaz à effet de serre d'ici à 2012. Malheureusement, ce protocole garde une portée limitée puisque la Chine et les États-Unis, les deux premiers pollueurs du monde, refusent de le signer. Vient ensuite l'heure d'un premier bilan lors du sommet de Johannesburg en 2002, autrement appelé Rio plus 10, puisque l'on revient sur les avancées réalisées depuis 1992. Mais ce retour est plutôt négatif, à l'image de cette fameuse phrase prononcée par Jacques Chirac à cette occasion, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Finalement, la dernière de ces grandes conférences à faire date est la fameuse COP21 de Paris en 2015, qui est sans conteste la plus ambitieuse de toutes. Un texte à visée universelle, signé par 195 pays, qui montre une ambition de limiter le réchauffement global sous les 2 degrés, plafonner l'émission des gaz à effet de serre, mais surtout, elle met en place un principe de différenciation entre les pays développés pollueurs et les autres. On parle enfin d'entraide et de responsabilisation, ce qui est d'autant plus important lorsqu'on sait que les premiers pays qui subissent les effets du changement global sont les petits pays en voie de développement. Mais lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons dire que le bilan de toutes ces conférences internationales est pour le moins mitigé. Certes, les tendances mondiales n'empirent pas alors que la population mondiale et les déplacements continuent d'augmenter, mais nous nous éloignons sans cesse des seuils de durabilité de notre planète et nous affleurons toujours un peu plus ses limites. Greta Thunberg déplore à juste titre en 2022, lors de la COP27 de Sharm el-Sheikh, que cette série de conférences n'offre que des progrès graduels qui deviennent complètement vains au regard de l'urgence climatique. Notre trajectoire nous dirige sur une augmentation moyenne de 2,6 degrés et les émissions de gaz à effet de serre ne faiblissent pas malgré plus de 470 résolutions prises. C'est comme si nous démarrions finalement un marathon avec 50 ans de retard, c'est-à-dire le moment où a eu lieu le premier sommet de la Terre en 1972, bref, le moment où il aura fallu agir.
Merci Raphaël pour ces rappels. Les tenants et les aboutissants de ce plateau sont assez simples. On commencera par un constat, où est-ce qu'on en est? Comment le réchauffement climatique se manifeste-t-il dans différents domaines? Comment vivre avec? Est-ce qu'il y a des solutions? Comment nous adapter? Comment répondre à cette urgence? Quels sont les champs des possibles? C'est à toutes ces questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des éclairages, bien conscients que les deux plateaux d'aujourd'hui ne vont pas changer le monde, même si ce serait formidable. Mais nous n'avons pas ce pouvoir. Nous avons peut-être néanmoins en main quelques solutions et qui sait que ce plateau remonte aux oreilles des dirigeants. On peut toujours rêver. Alors un petit détail qui a son importance pour que ça ne vous choque pas, auditeurs, auditrices. Nous connaissons toutes et tous presque. Nous travaillons ensemble sur ce plateau et en CDN, nous avons le tutoiement facile. Donc pour la fluidité de nos échanges, on se tutoiera tous. Voilà, ce serait très bizarre d'en vous voyez certains ici sur ce plateau. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous sommes avec Yannick Manche du Parc National des Cévennes, chargé de mission eau et milieu aquatique. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Baptiste Agoé du Parc National des Cévennes, également responsable du pôle forêt et chasse.
Bonjour à toutes et tous.
Nous avons aussi Michel Kio, qui est un membre de l'ALEP, l'association lausérienne d'études pour la protection de l'environnement. Et Sandrine Sandrier aussi, donc qui est co-directrice du Réel CPE de Lozère, le réseau d'éducation à l'environnement.
Oui, bonjour.
Muriel Pascal est là avec nous pour la Confédération Paysanne et élue à la Chambre d'Agriculture. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Et Bruno Righetti, à côté de moi, ingénieur formateur à l'Institut Agro, tu fais plein de choses. Hein. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Et enfin Pierre Ergotte, élu à la commune d'Ispagnac et notamment en charge des questions d'environnement, d'eau et de forêt principalement.
C'est ça, bonjour à tous.
Bonjour.
Allons-y sans tergiverser, on va commencer par toi Yannick, la question peut paraître simple, à mon avis c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Quel constat peut-on tirer sur la ressource en eau ici en Cévennes, justement dans ce contexte de réchauffement climatique?
J'ai la difficulté d'attaquer, mais pour comprendre que le réchauffement climatique a un vrai impact sur la ressource et la circulation de l'eau, en fait, il y a trois paramètres à prendre. L'échauffement de l'atmosphère influence l'eau du fait de trois paramètres. En fait, il y a une modification de la circulation atmosphérique, donc ça fait une modification de la répartition et de la forme des précipitations. Ensuite, il y a les équilibres dits thermodynamiques. Le réchauffement de l'atmosphère entraîne que l'atmosphère peut stocker plus d'eau qu'avant en augmentation de température. Donc il y a une augmentation de l'humidité de l'atmosphère. Et ensuite, il y a le bilan énergétique. Donc l'augmentation de température de l'atmosphère augmente très fortement l'évapotranspiration. Ça veut dire l'évaporation des cours d'eau et des mers. Et ce qu'on parle de transpiration, c'est la consommation d'eau par les plantes qui transpirent à travers leurs feuilles. Et ces trois paramètres, avec des augmentations de température, qu'on peut discuter pendant des semaines, mais globalement, on est plus à 2, 3 ou 4 degrés annoncés, entraînent, dans les analyses scientifiques qui ont été publiées, hein, une baisse moyenne prévue des débits à notre échelle entre -20 et -40% des débits moyens annuels, avec ce qui seront les plus impactés, les têtes de bassin versant, donc nos secteurs majoritairement, avec -20 en bas et plutôt -40% de débit moyen en haut. Et les débits d'étiage, alors ça c'est des données du conseil scientifique de l'agence de l'eau Adour-Garonne, donc à l'échelle de la Garonne, ces débits d'étiage, -30% en 2030 et -50% en 2050. Donc il faut imaginer cet été, on a eu des débits faibles en fin août, on dira ça comme ça, et puis on en sort juste, mais on n'a pas beaucoup de débits, et bien vous en enlevez 50% à ce qu'on a déjà vu. Donc une augmentation des sécheresses, fortement, et une baisse globale du fait qu'il y a plus d'eau dans l'atmosphère et moins dans les sols.
Michel, tu veux réagir?
Ça corollaire aussi avec la température de l'eau.
Effectivement. De toute façon... Là, c'est des données uniquement quantitatives. Donc, une fois que vous aurez moins d'eau, elle va augmenter en température immédiatement, puisque vous avez moins de volume, plus d'ensoleillement, et ça va perturber complètement l'environnement biologique des milieux aquatiques, qui vont forcément se dégrader, puisque moins d'eau, plus de concentration. Donc, tous les polluants ou les concentrations naturelles qui sont diluées dans les volumes actuels, ils seront moins dilués. Donc vous aurez une évolution majeure de la qualité des milieux aquatiques.
Moins d'oxygène dissous.
Forcément.
Et donc pour la vie piscicole, on va dire, et pour l'entomofaune benthique, on va avoir effectivement donc, des problématiques fortes avec une perte à la fois d'un habitat.
On n'en est pas... On a déjà des difficultés pour essayer de modéliser et comprendre ce qui va se passer au niveau quantitatif, même si les données sont carrément à faire peur. Hein. Ça m'empêche pas encore de dormir, mais pas un peu quand même certaines nuits. Et forcément, tout ce qui est lié au milieu aquatique et l'eau reste l'origine de la vie, va être extrêmement modifié. Et vers quoi on va? Ben, pour l'instant, personne n'en sait rien. À part que ce sera plus du tout ce qu'on a connu depuis l'ère de la société humaine.
François. On constate aussi des épisodes pluvieux plus rares, mais plus forts, avec des grosses précipitations d'un coup. Est-ce que ces phénomènes-là, c'est aussi des phénomènes qu'on va retrouver, qui vont s'accentuer dans les années à venir?
C'est ce qu'on entend globalement dans la presse, hein, avec augmentation des phénomènes extrêmes, plus des sécheresses plus importantes et plus longues, ou plus régulières, et des épisodes de pluviométrie plus important. Alors ici on parle des épisodes cévenols. Une analyse historique des 50 dernières années montre qu'il n'y a pas de tendance. Il n'y a pas, pour notre secteur, en fait, on ne voit pas une augmentation des sécheresses. On voit une durée de sécheresse qui augmente, mais qui se décale par rapport à ce qu'on avait connu. C'est plutôt le début d'automne que le début d'été. Et sur les épisodes dissévenols de pluie extrême, pour l'instant, il n'y en a pas plus. Il y en a, voire moins. Alors, ils sont peut-être plus intenses ou moins intenses, mais on n'a pas de tendance. Après, c'est une vraie discussion hein, qu'on a scientifiquement, qui est que tout ça, on fonctionne sur des modèles. Et le modèle, il marche en fonction des données d'entrée qu'on lui donne. La pluviométrie, la température, le fonctionnement de l'atmosphère. Et là, la discussion scientifique, c'est que les modèles, ils sont en roue libre, puisque toutes les données d'entrée, on les a plus. On se base sur les données qui étaient plus ou moins stables dans l'historique de la connaissance. Et là, tout change. Donc les données d'entrée ne permettent pas au modèle de tourner à peu près fortement. On n'a que des tendances. Et les tendances, c'est on les voit pas sur les épisodes de pluie extrême, comme on les voit pas sur la répartition de la pluviométrie. Globalement, ce qu'on constate, c'est que c'est le même volume d'eau qui tombe annuellement, mais qui se répartit différemment. Mais sur les 20 dernières années, on n'a pas eu moins de pluie ou plus de pluie. C'est le même volume à l'année.
Alors j'enregistre depuis plus de 30 ans en fait les données pluviométriques pour le nord du département, donc Margerie d'Aubrac, hein, je suis sur Margerie d'Ouest. Et le constat que je peux faire au jour d'aujourd'hui, hein, c'est effectivement donc une stabilité dans la quantité globale annuelle de pluviométrie. On est à 850 mm et ça ne change pas beaucoup. Par contre, la répartition a changé. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait des pluviométries en mai et juin qui étaient abondantes et qui préparaient en fait l'été. C'est-à-dire que ça permettait de remplir les nappes phréatiques et d'avoir des étés, on va dire, acceptables hein, au niveau de la croissance des prairies, hein, si on veut parler agricole. Par contre, on est sur des pluviométrie plus abondante au mois de novembre. Hein, octobre-novembre, on se retrouve avec des pluviométries qui augmentent très fortement. Donc il y a une sorte de décalage hein, que l'on constate et qui est problématique. Problématique dans le sens où les ressources en eau qui sont nécessaires pour l'été n'y sont pas.
On reviendra, hein, tu as abordé plein de sujets là-dessus, évidemment on est là pour ça, notamment le milieu agricole, etc. Et là on passe à un autre point, la biodiversité.
Oui, je voulais juste d'abord, comme on est sur le sujet de l'eau, on a beaucoup parlé de la quantité d'eau. Par rapport à la qualité des eaux aussi, je me tourne vers toi Bruno, qui travaille sur les questions de biodiversité, de changement climatique à l'Institut Agro, mais aussi tu es spécialiste des questions hydrobiologistes. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait sur l'évolution de la qualité des eaux depuis ces dernières décennies quoi.
Oui, là-dessus on a des choses un peu paradoxales, c'est-à-dire dans les dernières décennies on peut constater des progrès dans l'épuration de l'eau, etc. Mais c'est pas pour ça que les cours d'eau se portent obligatoirement mieux. Et ça s'explique très bien. Parce qu'effectivement, avec ce qui a été dit précédemment, on comprend que au fur et à mesure que finalement la pluviométrie se répartit différemment et la chaleur fait qu'il y a beaucoup plus d'évapotranspiration, on a quand même des niveaux, notamment à l'été, qui baissent de toute façon, mais ça on le constate. Hein. Et ça, c'est pas parti pour s'arrêter. Dans une région où on fait du canoë et kayak, on comprend qu'à un moment donné, il faudra mettre des roulettes. On constate des choses de manière intuitive hein, déjà là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce que disait Michel tout à l'heure, c'est que quand l'eau chauffe, en fait, elle contient moins d'oxygène et du coup, tous les animaux qui sont dedans, qui respirent, souffrent de ce manque d'oxygène. Et donc, lorsqu'on a un peu de pollution organique, même si on en a moins qu'avant, en fait, le milieu va en souffrir davantage parce que ça va consommer de l'oxygène. Et moi, ce que je constate, alors moi, je suis un peu monomaniaque des petites bêtes, donc je regarde les petites bêtes dans les cours d'eau, à droite, à gauche, et de manière empirique, sans avoir pu le démontrer jusque-là, ce que je constate, c'est que mes espèces remontent. C'est-à-dire qu'effectivement, comme la température c'est importante pour elles, au fur et à mesure, celles que je trouvais que en bas, je les trouve plus haut, puis plus haut, puis plus haut. Et évidemment, après, quand le milieu ne leur correspond plus, la logique serait que je ne les trouve plus. Et en fait, ça donne un corollaire avec la biodiversité, c'est-à-dire ce qu'on constate sur les insectes. C'est bon, ça c'est de notoriété publique en Europe. Il y a une disparition massive des insectes en population, c'est-à-dire il y en a de moins en moins. Et ça, tout un chacun, surtout les gens comme moi d'un certain âge, le constatent, parce que quand on était petit, les pare-brises étaient complètement emplâtrées d'insectes l'été. Maintenant, c'est bien, on a pu à laver les pare-brises, mais ça a du sens quand même. Hein. En fait, c'est qu'il y en a beaucoup moins en quantité. Mais derrière cette quantité, il y a aussi effectivement des espèces qui sont de moins en moins nombreuses et à un moment donné, disparaissent. C'est logique. Donc en fait, on a logiquement une chronique annoncée de disparition d'espèces d'insectes. Alors bon, on peut se dire, et alors? Mais en fait, quand on connaît un peu la complexité des écosystèmes, on sait que les conséquences peuvent être terribles. Et le problème qu'on a aussi, c'est qu'on ne les connaît pas si bien que ça, tous ces insectes qui disparaissent. C'est-à-dire, on a à peu près les listes d'espèces qu'il y a en France, quoi qu'il y en ait des nouvelles régulièrement, qui sont découvertes encore. Mais les répartitions, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces, donc on ne connaît pas du tout la répartition en France. Donc en fait, on est un peu en train de voir disparaître de la faune qu'on ne connaîtra pas. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et la part du changement climatique... Alors vous voyez que c'est complexe tout ça. Donc la part du changement climatique n'est pas toujours directe là-dedans. Parce qu'il y a aussi les pesticides, il y a aussi les changements d'habitat qui prédominent pour le moment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, quand on regarde les modèles et les évolutions de température, où on n'est qu'au tout début, il faut bien le rappeler, on voit bien qu'on pressent que le changement climatique va se détacher du peloton et venir assez vite en tête des causes de disparition d'espèces.
Michel, tu vas pouvoir rebondir avec ce que vient de dire Bruno, sur ce que vient de dire Bruno. D'abord, juste avant, je voudrais qu'on fasse un petit rappel de ce qu'est l'ALEP pour celles et ceux
L'ALEP,
qui ne
connaissent pas. L'ALEP, c'est l'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement. Elle a été créée dans les années 80 pour contrecarrer les projets de mines d'uranium des Bondons, donc pas très loin d'ici. Donc ça, c'est une association qui a un petit peu de bouteille, on va dire. Et c'est une association donc qui actuellement a à peu près 130 membres actifs donc sur le département. Hein. Elle permet d'enregistrer aussi toutes les observations de la faune sauvage et de la flore. Et donc ce sont des données qui sont rentrées dans les logiciels du Muséum d'Histoire Naturelle, hein, Faune LR, Faune France. Voilà, donc ce sont des données qui sont intéressantes pour permettre justement de suivre les évolutions des populations. C'est également, l'ALEP, c'est un bureau d'études, hein, où on travaille donc sur des études d'impact qui nous sont demandées, avec justement, comme toutes les bases de données naturalistes que nous avons, nous permettent de savoir exactement quels sont les impacts potentiels des activités humaines ou des projets d'activités qui sont en cours. Donc c'est également de l'éducation à l'environnement. On travaille avec le CPIE, hein, avec Charles Duterte, donc notre animateur nature. Voilà, donc ça permet de sensibiliser et de toucher un public, en particulier beaucoup de scolaires, bien entendu, mais aussi du grand public, pour avoir, on va dire, permettre une prise de conscience un petit peu de ce que représente le patrimoine naturel de notre département et les enjeux qui vont avec.
Enjeux dont tu viens aussi nous faire part, très complexe. On reviendra évidemment à l'éducation à l'environnement dans quelques instants. On va peut-être passer à la forêt. Mon cher François.
Je me tourne vers Baptiste, du coup, qui est en charge de la forêt et de la chasse aussi au parc national des Cévennes. Juste pour faire un point sur la situation des forêts, on voit quand même qu'elles font face à de multiples sécheresses, des incendies. Il y a des questions, beaucoup de réflexions qui se posent sur le renouvellement des forêts. Est-ce qu'il faut
quand on parle de plantation, garder les espèces en place ou déjà anticiper le réchauffement climatique et installer de nouvelles espèces. Quel état tu fais, toi, de nos forêts, alors de manière générale et puis particulièrement en Lozère?
Ouais, alors, j'ai une heure et demie, c'est ça? Non, peut-être avant de je suis désolé, je vais peut-être faire un peu de théorie avant de rentrer dans l'état des lieux, parce qu'effectivement, c'est compliqué, mais et ça peut être long, mais c'est vrai qu'on l'a dit, il y a une augmentation des températures avec des précipitations qui sont plus ou moins stables. Alors même s'il y a une modification des répartitions dans le temps, donc forcément, ça va avoir un impact sur les arbres. Parce que, voilà, sans vouloir refaire un cours de physiologie végétale, ce qui fait fonctionner un arbre, c'est la photosynthèse en grande majorité, qui donc utilise le CO2 de l'atmosphère, et avec de la lumière et de l'eau, qui vient, donc la lumière qui vient du soleil et l'eau qui puise dans le sol, combinée avec les éléments minéraux, ça va lui permettre de synthétiser des sucres pour sa croissance. Et en contrepartie, il libère du dioxygène dans l'atmosphère. Ça, c'est relativement bien connu. Et donc, on comprend, on le disait, les températures vont augmenter, Yannick le disait, la transpiration. Et donc, avec plus de transpiration et un niveau d'eau constant, et bien on se comprend vite que l'eau, c'est ce qui va devenir le facteur limitant. Et donc, l'arbre va arrêter de transpirer et limiter sa photosynthèse pour ne pas mourir de soif. Et donc, ce facteur limitant-là, il va forcément affaiblir les arbres. Alors, c'est ce qui explique qu'on voit les arbres qui perdent leurs feuilles plus tôt ou qui roussissent, les couleurs d'automne qui arrivent plus tôt. Donc, les arbres, généralement, ils vont pas bien une année, puis ils vont repartir. Si c'est un phénomène d'une année, l'arbre va s'en remettre. Par contre, on comprend bien que si c'est répété, petit à petit, ça va les affaiblir de plus en plus et ça peut aller jusqu'à ce qu'ils meurent, tout simplement. Il y a aussi un phénomène, quand il fait vraiment très chaud et qu'il n'y a vraiment plus assez d'eau, l'arbre peut aller jusqu'à faire des embolies, c'est-à-dire qu'on a la colonne d'eau qui va des racines à la feuille dans l'arbre, qui va se rompre. Et donc à ce moment-là, il peut y avoir toute une partie de l'arbre, voire son entièreté, qui meurt de soif, en fait, tout simplement. Donc il y a des phénomènes de mortalité qui augmentent en forêt. Tous ces phénomènes d'affaiblissement aussi vont faire que les arbres vont être plus sensibles aux ravageurs. Et donc voilà, il y a des phénomènes un peu secondaires aussi, mais qui dit... modification climatique dit plus de les arbres débourrent plus tôt et donc quand il y a une neige de printemps un peu lourde, ça va entraîner un peu de casse aussi dans les peuplements. Donc il y a tout un tas d'effets un peu indirects qui vont impacter les forêts. Alors c'est vrai qu'après les essences vont pas réagir, donc les espèces d'arbres vont pas réagir de la même façon, elles seront plus ou moins sensibles à ces phénomènes. Alors ici on a la chance, on n'est pas dans le Grand Est où on a des centaines, des milliers d'hectares d'épicéas d'un seul tenant qui dépérissent et puis après on se retrouve bien embêté. On a des forêts qui sont encore relativement épargnées par le changement climatique. On a dans les Cévennes, donc on a des premiers signaux d'inquiétude quand même. On a pareil des épicéas, qui est une des essences les plus sensibles, qui dépérissent. Le châtaignier, alors le châtaignier était déjà pas très bien avant, parce qu'il a été planté et entretenu par l'homme dans des milieux où il était naturellement pas très adapté pour faire de la jolie forêt, on va dire. Ça va encore... encore empiré. On a sur le Causse des peuplements de pins qui commencent aussi à rougir. Alors c'est pareil, ils repartent les années suivantes, mais il ne faudrait pas que ça se répète trop souvent. Vous avez tous vu, moi j'ai le souvenir de l'année dernière, de voir des couleurs de l'automne au 15 août en partant en vacances. Là cette année c'était plutôt fin août en rentrant, où on a vu les chênes et les frênes qui avaient grillé suite à la canicule tardive. Si on dézoome un peu, les arbres vont être plus affaiblis. Si on dézoome à l'échelle du peuplement, forcément plus de mortalité au sein des peuplements. Tout ça va avoir des impacts. C'est que si on dézoome encore à l'échelle, on va dire de la région, on va dire, on sait que les espèces vont migrer, entre guillemets, leur aire de répartition actuelle va évoluer vers l'altitude, pour monter en altitude. Et aussi en latitude, donc pour migrer vers le nord. Donc voilà, on a cette chance d'être dans un milieu de montagne. Donc en fait, ce qui est en bas va souffrir en premier. Donc on aura un peu peut-être le temps de voir à quelle sauce on va être mangé en observant ce qui se passe dans les étages inférieurs. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ça va avoir des conséquences. Et là où c'est compliqué en forêt, c'est qu'on a des grosses incertitudes sur les capacités d'adaptation des arbres et des peuplements forestiers. On sait qu'un arbre, ça vit 100, 150, 200 ans, donc les générations ne sont pas aussi rapprochées que pour les insectes. En termes d'évolution, c'est plus compliqué. Les arbres, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais ils n'ont pas de pieds non plus, donc ils ne se déplacent pas. Donc forcément, on se dit, oula, c'est mal barré pour nos forêts face à un phénomène aussi rapide que le changement climatique et vu les échelles de temps. Après, on ne sait pas. En fait, clairement, une forêt, c'est pas juste une somme d'arbres, c'est des écosystèmes complexes. Il y a plein de choses, plein d'interactions avec la faune, la flore, entre les espèces qu'on ne maîtrise pas et qu'on connaît mal encore. Et donc, est-ce que les peuplements seront capables de s'adapter au climat de demain ? Ben ça, il y a des signes qui disent que non, d'autres qui disent que pourquoi pas. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça remet en question pas mal de choses en termes de gestion forestière. On avait l'habitude de gérer les forêts de façon assez simple, dans un climat stable. On savait que ce qu'on plantait en 1950, le climat, enfin, on pensait que ce serait le même encore 50, 100 ans plus tard. Donc c'était relativement simple. On pouvait gérer la forêt presque comme un champ, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et toutes nos certitudes sont un peu remises en question. Donc les choix que feront les propriétaires forestiers et les gestionnaires forestiers vont être cruciaux. Sont plein d'incertitudes. Mais ça, du coup, ça fait un peu la transition sur ce dont on parlera cet après-midi, peut-être.
Oui, effectivement. Puis je tiens à souligner qu'il devait y avoir aussi sur le plateau Loïc Moline, qui travaille au CRPF, Centre Régional sur la Propriété Forestière. Donc on peut avoir aussi une discussion cet après-midi sur comment les propriétaires privés aussi considèrent ce changement. Michel Kio, tu voulais réagir.
Un constat que l'on peut faire, effectivement, donc c'est une problématique au niveau de la régénération. Hein, les jeunes arbres qui ont un enracinement faible prennent un impact très fort. Hein, puisque en fait on retrouve beaucoup de jeunes arbres qui meurent de sécheresse, donc il y a la problématique de la régénération. Quand on parlait de déplacement en fait de peuplement sur les peuplements forestiers, ça remonte en altitude et donc on peut penser que plus tard on se retrouve avec du chêne vert ou du chêne pubescent qui remonte toujours plus haut. Donc c'est du changement de peuplement, mais qui dit changement de peuplement dit changement aussi d'espèces animales qui vivent avec. Donc c'est aussi problématique. Remonter en altitude, c'est aussi porter préjudice à nos espèces eurosibériennes. C'est-à-dire qu'on est sur, par exemple, le mont Lozère, avec un étage subalpin qui est présent, 35 espèces de plantes donc, qui sont présentes et qui sont caractéristiques de cet étage-là. C'est également donc, des espèces comme le merle à plastron ou le pupitre pioncel, etc., donc, qui vivent dans ces étages-là. Qui sont plus ou moins condamnés à disparaître.
C'est sûr que voilà, on n'est pas dans les Alpes, donc quand bien même les espèces arriveraient à migrer, à monter en altitude, ici on est plafonné à 1800 mètres. Quoi. Donc quand on est arrivé au plafond, on ne peut plus monter au-dessus.
Un arbre dans les nuages.
Et je rebondissais, j'ai oublié d'évoquer quelque chose que tu as effectivement parmi les challenges supplémentaires pour la forêt. Tu l'as évoqué dans ton introduction, c'est tous les effets un peu indirects. Donc tu as parlé du risque incendie qui va bien sûr augmenter avec toutes les précautions que ça implique en termes de gestion. Et donc comment concilier ça avec une gestion durable des forêts avec le changement climatique, on s'attend aussi à une augmentation de la fréquentation en forêt, par exemple, et donc les risques qui vont avec. On s'attend aussi à avoir une pression en termes de pâturage. Par exemple, on a de plus en plus d'agriculteurs qui souhaitent, quand il fait trop chaud dans les milieux ouverts, pouvoir mettre leur troupeau en forêt. Et donc ça aussi, c'est un petite pression supplémentaire sur ces milieux-là, qui peut aussi être une chance, si c'est bien mené. Il n'y a pas forcément incompatibilité, mais il faut s'y pencher. Et puis, changement climatique, transition écologique et énergétique, on sait que le bois est une ressource qui est demandée, que ce soit pour le bois énergie ou pour le bois de construction. On est bien content aussi de pouvoir utiliser le bois pour se chauffer et construire nos maisons. Et donc, on peut s'attendre aussi à une pression supplémentaire sur la ressource en elle-même. Donc, comme ça, on a une liste bien longue de problématiques sur lesquelles se pencher.
Avant de passer à l'agriculture, Bruno, tu voulais réagir?
Oui, sur le côté forêt, sur plusieurs choses. D'une part, dans ce qui ressort, et ça c'est important, c'est-à-dire que le problème fondamental n'est pas le réchauffement climatique lui-même, mais la vitesse du réchauffement climatique. Et ça, en forêt, on le voit super bien. Et je voulais citer une anecdote, parce que j'enseigne aussi avec des étudiants, et à un moment donné, on voulait montrer comment la litière en forêt était plus riche en faune que la litière en milieu ouvert. Et sur la manip, on était sur le cause, on a pris de la litière sous pin noir, et il n'y avait rien. Mais absolument rien. Et ça, je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire, derrière ça, il y a l'idée que penser qu'une forêt, c'est juste des arbres, c'est un petit peu comme penser que le zoo du Lunaret, c'est la savane africaine. C'est-à-dire qu'une forêt, c'est pas des arbres, c'est des arbres avec des champignons, des colamboles, des acariens, des insectes, des tas de choses. Et tout ça fonctionne comme un tout, un sol qui se forme. Et ça soulève un peu la question de se dire, on pourrait changer en mettant des espèces qu'on fait venir de loin et qui sont bien adaptées au point de vue climatique, mais ça pourrait faire comme les pins nord d'Autriche, c'est-à-dire on les ramène sans leur cortège, et du coup, on ne va plus avoir de forêt, mais des collections d'arbres. Et je trouve qu'en Lozère, notamment, on a des bons exemples là-dessus, comme les vieilles forêts qu'on a, comme sur les versants de l'Aigoile ou du Lozère, qui sont tellement, tellement actives et diversifiées que, en fait, c'est des choses qui sont irremplaçables. C'est pas parce qu'on va planter quelques arbres qu'on va avoir une forêt. Il va falloir des siècles et des siècles. Donc, je pense que cette représentation de la forêt, elle est importante, quoi.
Oui, effectivement, les limites, enfin, moi, j'aime bien aussi insister sur les limites de cette approche essence-centrée. C'est-à-dire que, Il y a plein de modèles qui existent. On prend l'aire de répartition du hêtre. On dit, ça colle à telle et telle condition climatique. Et puis, on applique les projections climatiques. Et donc, on se dit, dans 100 ans, en 2100, l'aire de répartition du hêtre, ce sera plus que ça. Parce qu'on fait le parallèle mathématiquement. Et c'est vrai que ça a pas mal de limites parce qu'on ne prend pas en compte toutes ces interactions, etc. Et donc, ça rejoint toute l'incertitude. Alors, ces modèles, ils ont leur utilité. Faut pas tout mettre à la poubelle. Mais il faut ne pas oublier que la forêt, c'est infiniment plus compliqué que ça.
On continuera à parler de forêt tout à l'heure. Puisqu'on a parlé d'eau, de biodiversité et de forêt. Muriel, on va aborder le milieu de l'agriculture. Tu es apicultrice. Les agriculteurs, agricultrices, paysans, paysannes sont en première ligne pour faire face à la grave crise climatique dans laquelle nous nous trouvons. C'est évidemment pas la seule. Pareil, ça doit pas être évident de formuler une réponse rapide. Mais comment ça se manifeste sur le monde agricole, justement, cette crise climatique ?
Je vais être bien moins scientifique que les interventions précédentes.
Mais au moins ancré dans quelque chose de...
Oui. On va dire que l'activité des paysans et des paysannes est fortement impactée par les changements climatiques. On va dire la première activité... on est aux premières loges en fait. Ce sont tout nos cycles de production, ce sont également nos outils de production qui sont menacés par les changements climatiques. C'est pas compliqué, quand il y a moins d'eau, quand il fait sec, quand les températures sont excessives, la production diminue drastiquement en quantité. Les cycles végétaux, les cycles animaux, tout est perturbé, donc forcément ça impacte la productivité dans nos fermes. La ressource en eau aussi et pose vraiment de sérieux problèmes. Hein. On l'a vu avec les récentes manifestations qui ont eu lieu par rapport au projet de méga-bassine. Et en Lozère également aussi, hein, on a subi quand même beaucoup d'arrêtés sécheresse. Et donc forcément, les paysans et paysannes qui ont besoin d'eau, que ce soit des maraîchers ou d'autres productions, on va dire, parce qu'il n'y a pas que les maraîchers qui irriguent en Lozère, il y a également des éleveurs, n'ont pas pu prélever de l'eau comme ils auraient souhaité. Et plus il fait sec, plus il fait chaud, plus on a envie de, plus on doit arroser. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Donc ça pose le problème de la ressource en eau, de la répartition de cette ressource. Donc c'est des changements qui bouleversent vraiment nos activités et qui peuvent générer même des tensions. Parce que se partager une ressource, c'est quand même pas simple. Quand les règles, il faut que les règles soient bien définies, qu'elles soient acceptables pour tout le monde. Et on n'en est pas tout à fait là, je pense.
C'est-à-dire qu'il n'est pas encore intégré dans les décisions qui sont prises, etc., ce dérèglement, ce changement climatique, dans les réflexions menées ?
Si, si. Ben, en fait, il y a des règles qui sont posées, mais elles ne sont pas forcément acceptables, je dirais, pour tout le monde. Et le problème de la répartition de l'eau, je pense qu'il va falloir en reparler, parce qu'on ne peut pas continuer forcément à répartir l'eau de la manière où elle est actuellement. Il faut prioriser. Alors comment on priorise, qui décide, comment on décide, tout ça c'est des choses qu'il va falloir discuter rapidement et vu la tournure que ça prend, on pense que c'est pas forcément actuellement la bonne option qui a été choisie. Quand on voit alors pas en Lozère bien sûr, mais quand on voit que la solution qui est posée pour faire face au changement climatique, c'est d'adapter la ressource à la production, ben, nous on dit c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, il va falloir que nous, paysans, on s'adapte à la ressource disponible et pas forcément toujours tirer sur la ressource pour seulement quelques fermes ou quelques pourcentages de surface irriguée. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il va falloir travailler et si on veut faire face au changement climatique. Après, voilà, il faut de la volonté politique derrière. Ça, c'est autre chose. Ça dépend pas de moi.
Ça, c'est sûr. En tout cas, voilà, pour poser les bases sur l'agriculture. Non,
juste ce que je voulais dire, il faut, nous, à la Confédération paysanne, on sait aussi que ces changements climatiques sont aussi... on est aussi responsables. On a notre part de responsabilité, nous, producteurs agricoles, dans ces changements climatiques, puisque une grosse part des gaz à effet de serre sont émis par l'agriculture. Mais nous, on dit que il y a une agriculture qui est quand même beaucoup plus polluante que d'autres, c'est l'agriculture industrielle. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Mais voilà, comment on fera après pour sortir d'un schéma hyper productiviste et aller vers des choses plus raisonnables, on va dire, pour pas dire résilientes. Mais voilà, il faut savoir aussi que dans le monde. Ce sont les petites fermes qui produisent la plupart de notre nourriture sur une faible surface en termes de foncier. 70% de notre alimentation est produite sur un quart de la surface foncière. Donc l'agriculture industrielle ne nous garantit pas qu'on aura plus faim dans le monde, loin de là. Donc c'est vraiment l'agriculture paysanne, les petites fermes qui permettent d'avoir une souveraineté alimentaire. Et ce ne sont pas celles-là qui polluent le plus. Voilà. Donc il va falloir un peu tirer des leçons de tout ça et pas s'enfermer dans ce modèle industriel dans lequel on est aujourd'hui.
On va parler de conscientisation avant que tu aies une remarque.
Oui, non, c'est juste pour dire qu'on aura l'occasion de reparler de ça un petit peu plus dans le second plateau. Voilà, donc je vais enchaîner. Du coup, voilà, ben, ça nous, on a pu quand même poser ces constats voilà, sur nos ressources aujourd'hui. Clairement, on voit que le changement climatique, il est là. Et je vais passer la parole bientôt à Sandrine. Mais avant, je voulais poser une question très, très naïve à Yannick sur la question de l'eau, parce que tu nous as dit tout à l'heure que l'eau, dans ta présentation, elle était plus présente dans l'atmosphère. Est-ce qu'on peut... On peut imaginer que cette eau, elle retombe à un moment dans le sol, dans les années qui viennent. Enfin, je ne sais pas comment ça, on peut expliquer cette évolution.
Est-ce que c'est des cycles ?
C'est une évolution. On parle du grand cycle de l'eau. Donc toujours pareil, c'est la majorité de l'eau, c'est l'eau marine qui s'évapore, qui ferme les nuages, il pleut, ça va sur les terres et ça retourne à la mer. On est dans un cycle global. Là, l'augmentation de température de l'atmosphère fait qu'il y aura plus d'eau stockée dans l'atmosphère que ce qu'on a connu. Mais l'eau, c'est toujours la même. L'eau, elle disparaît pas. Elle s'en va pas. On est à moins de 0,01% d'eau qui est modélisée, qui s'en va dans l'espace. Donc on est dans un cycle fermé. C'est vraiment la répartition et son cycle qui est complètement modifié. Elle va pas plus tomber ou moins tomber, ça on l'a pas constaté, alors peut-être que ça va évoluer, mais il y en aura moins dans les rivières, moins dans les mers, moins dans les lacs et plus dans l'atmosphère, mais de toute façon elle va revenir. On est dans un cercle fermé. Là c'est la répartition qui change un peu, sans vraiment savoir vers où ça va, on le sait pas, avec les modifications des grands courants atmosphériques, là qui est des vraies questions, hein, que pour l'instant, on ne maîtrise pas vraiment les grands courants atmosphériques de haute altitude, là où tous les avions ils y vont, là on parle des jet streams et tous ces trucs-là. Ça, on ne sait pas ce que ça va donner. Du coup, on parle de les pôles, les tropiques, c'est plus. Tous ces systèmes climatiques peuvent complètement changer. Et on a les grands courants marins, qui en ce moment, on est en train d'avoir quelques perceptions qui nous disent oulala, ça va peut-être aussi arrêter de fonctionner tel qu'on l'a toujours connu. Et puis on n'est pas très ancien sur la planète par rapport à l'âge de la planète. Et l'exemple typique, c'est le Gulf Stream, qui est un courant chaud qui réchauffe toute la côte atlantique européenne, qui vient du Golfe du Mexique. Mais si vous regardez, si je me souviens bien, Brest, c'est à la latitude de New York, ou même plus haut, et c'est pas du tout le même climat. Le courant chaud qui vient du Golfe du Mexique, qui passe sous qui monte dans le nord et qui passe sous les pôles et qui ressort en proche et qui nous réchauffe nos côtes, si lui disparaît, on a l'ensemble du climatique européen qui va changer. Ou parce que New York ou Ontario, Ottawa, tous ces coins-là, eux, ils ont 3-4 mètres de neige, il fait moins 30 l'été, l'hiver. Brest, le nord Europe, il fait plutôt bon. Europe centrale. Ça, si ça change, c'est un grand saut dans l'inconnu. Mais le volume d'eau, il va rester constant. C'est sa répartition qu'on maîtrise pas mal. Ce qu'on constate, c'est que ça change.
Merci Yannick pour cette précision. Sandrine, donc tu travailles au REEL, Réseau d'éducation à l'environnement, CPIE de Lozère. Ça fait de nombreuses années que tu travailles dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Je voulais avoir un petit peu ton ressenti aujourd'hui. Voilà, on a parlé de ces constats, on vit quand même aujourd'hui le changement climatique. Ton travail porte beaucoup sur la sensibilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire ? Oui, non ? Ou alors, est-ce que c'est un travail de sensibilisation un peu différent qu'il faut mener ?
Oui, alors effectivement, dans l'historique de l'éducation à l'environnement, on a parlé d'éducation à la nature, éducation à l'environnement, éducation au développement durable, quand ces termes sont arrivés dans la société. Et aujourd'hui, on aborde la question du changement climatique, même si on est bien conscient que c'est un aspect parmi d'autres de l'éducation à l'environnement. Et il y a toujours besoin de sensibiliser certaines populations. Enfin, tout le monde n'est pas sensible, n'a pas pris conscience des problématiques liées au changement climatique ou liées à la perte de biodiversité. Nous, on essaye aujourd'hui d'agir de différentes manières. Donc on va évidemment toujours être sur cette volonté de sensibiliser, faire prendre conscience des enjeux. Et puis ensuite, on va être sur l'accompagnement d'adoption de nouvelles pratiques, si on ne veut pas dire changement de comportement, ça ne veut pas dire que les comportements actuels sont mauvais, ils existent, mais on peut aussi adopter des nouvelles pratiques à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Donc on va travailler avec les habitants individuellement, avec des groupes d'habitants, ou aussi en direct avec les collectivités pour faire en sorte que les politiques publiques qui sont décider puissent intégrer tous ces aspects de l'éducation à l'environnement.
Est-ce que justement cette question du changement climatique, on parlait des politiques publiques, est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte dans ces politiques?
Alors nous, par exemple, on travaille sur un programme qui s'appelle TVB, Trame verte et bleue sur la biodiversité, où justement on va être, par exemple, sur de la revégétalisation, sur les notions autour de la désimperméabilisation des sols dans les cours d'école. Donc là, en fait, il y a plein d'aspects. Je prends toujours un peu ce projet en exemple parce que il va aborder plein de choses. Il va aborder les relations entre les enfants au sein de l'école, par rapport à la place des différents espaces. On va donc justement, on enlève le goudron qui a été mis dans. Je pense qu'on a quelques jeunes dans la salle. Donc quand nous on était à l'école, ils ont remplacé la terre par du goudron, et aujourd'hui, voilà, on se pose la question d'enlever le goudron, parce que de toute façon, on sait bien que en plein soleil au mois de juin, le goudron, c'est juste impossible de jouer pour les enfants. Et donc nous, on va arriver avec aussi le regard biodiversité, comment mon école elle peut mieux accueillir la biodiversité, et comment voilà, donc on va essayer de réfléchir à ces actions, à des actions qui vont modifier. On est sur l'adaptation au changement climatique plus que l'atténuation. Je ne sais pas si on va aborder cette question aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet important d'avoir vraiment en tête les deux sujets. Et puis voilà, je ne sais plus la question.
Non, c'était pour savoir comment justement la question du réchauffement climatique était prise en compte dans les politiques.
Oui, oui, voilà. Donc en fait, on a vraiment ce regard. En fait, on parle de changement climatique en permanence. Ça, c'est voilà, c'est un peu au fond de toutes nos actions, mais c'est vraiment pas le seul aspect. L'idée, c'est vraiment de mettre en lien voilà, toutes les limites planétaires sur les que l'on dépasse petit à petit, que l'on atteint plutôt, parce qu'on atteint les limites. Et le changement climatique, c'était un moment où on a voulu travailler. On avait créé un projet qui s'appelait En Lozère pour l'océan, qui était vraiment l'idée de voilà, travailler sur la question de l'eau et du changement climatique, en ayant conscience que en Lozère, on est en tête de bassin versant. Mais voilà, aujourd'hui, on aborde aussi d'autres sujets avec le changement climatique.
Juste avant Baptiste, que Pierre réagisse, vas-y Baptiste.
Non, moi j'ai une question, je me permets de faire l'animateur aussi.
Avec plaisir, c'est un échange.
On l'a vu en intro, le changement climatique, on en parle depuis au final presque 50 ans, un peu plus depuis 30 ans. Et vous, depuis combien de temps c'est présent ou omniprésent, tu vois, dans les thématiques abordées? Est-ce que c'est quelque chose de tout récent au final, ou ça fait déjà aussi un paquet de temps que c'est dans les tuyaux?
Ouais, moi je dirais que c'est quand même relativement récent, ça fait 10-15 ans, une quinzaine d'années que la question du changement climatique est abordée quand on va aménager un centre d'éducation environnement, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, mais...
Et prendre la place dans les médias aussi. Peut-être qu'on n'en parlait pas du tout au début des années 90 ou des années 80.
De toute façon, oui, même 2010, quoi. Enfin, on va dire 2010, on a commencé à en parler.
Ouais. Justement, on parle de politique publique locale. Pierre, tu es élu à la mairie d'Ispagnac. Quel constat tu peux faire, toi, depuis le temps que tu es à la mairie d'Ispagnac? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on est dans le bon? Comment ça se passe à Ispagnac d'ailleurs?
Oui, alors je pourrais parler d'Ispagnac, et aussi peut-être quand on est élu municipal, certains sont aussi élus communautaires, donc ce qui donne un peu une vision sur un territoire un peu plus large. Alors je dirais que globalement, le changement climatique, c'est pas le moteur de l'action politique. J'ai envie de dire qu'on est encore plutôt à devoir traiter les conséquences. Et donc je pourrais prendre quelques exemples, par exemple sur la question de l'eau. Donc Yannick nous a dit baisse des ressources. Donc ces ressources, c'est aussi nos ressources pour de l'eau potable ou pour l'abreuvement du bétail qui est raccordé au réseau public. Donc là, le sujet à traiter, c'est comment amener de l'eau tous les jours et toute l'année au robinet de tous les usagers de la communauté de communes, puisque c'est devenu une compétence intercommunale depuis le 1er janvier 2020. Donc voilà, ça c'est un sujet, c'est connexe avec le changement climatique, mais qui doit être traité. Ensuite, cette eau, quand on parle du petit cycle de l'eau, donc c'est l'eau qu'on prélève, qu'on utilise et qu'on rend après l'avoir traitée au milieu naturel. Il y a aussi la question d'être bon sur l'assainissement, donc l'assainissement à l'habitation, qu'on appelle l'assainissement non collectif, et l'assainissement dans nos stations d'épuration. D'autant que ces rejets de stations d'épuration, ils doivent être améliorés, parce que ça a été aussi évoqué. Tous les polluants, la bactériologie qu'on pourrait rejeter, se retrouvent dilués dans moins d'eau, donc derrière un milieu impacté. Pour revenir du coup à ce milieu naturel, nos rivières, qui sont aussi un facteur avec des enjeux touristiques importants, on va aussi avoir à traiter du sujet de est-ce qu'on peut permettre aux gens d'aller en sécurité, s'y rafraîchir, s'y baigner. Et donc ça c'est le sujet de la qualité des eaux de baignade, que tous les étés, voilà, par des problématiques de bactériologie, d'algues, on entend beaucoup, beaucoup parler. Alors on en parle l'été, peut-être que c'est un sujet qui est présent toute l'année, mais on en parle quand il y a du monde dans nos rivières. Pour le sujet de l'eau, voilà, j'ai un peu évoqué le petit cycle, le grand cycle. Pour revenir peut-être sur la forêt, Baptiste en a parlé, des problématiques, des craintes des gens par rapport aux incendies. Quand ça prend feu, quand ça prend feu dans les gorges, parce que nos forêts sont malades, parce qu'on a du mal à y accéder, pour éteindre les incendies, ça fait un peu... Enfin, c'est une crainte de la population et donc des élus garants aussi de la sécurité civile. Là, sur ce sujet-là, on a des instances comme les communes forestières ou ici, par le PETR, la charte de forestière Sud-Lozère, où on va pouvoir essayer de trouver des solutions à l'échelle des massifs. Et puis, je voulais peut-être aussi aborder l'éducation à l'environnement. Donc à Hispaniac, mais il y a plusieurs communes sur le territoire qui ont eu la chance de profiter des programmes d'atlas de la biodiversité communale, bien aidés dans le pilotage par le parc national. Et donc ça, c'est un vrai outil aussi pour peut-être... parce que le changement climatique, il nous déplace un peu tous à l'échelle géographique à laquelle il nous impacte. Par contre, essayer de voir un peu plus finement sur nos territoires et sur nos communes, quelle est la biodiversité, les milieux en présence. Et sur Hispaniac, on est dans la dernière année, donc là la question maintenant c'est d'avoir un peu mieux compris, avoir partagé ça avec la population, et puis maintenant d'essayer de construire un plan d'action qui se voudra opérationnel, quoi, pour essayer de un peu sortir des concepts, des idées, et donc voilà, un peu on se retrousse les manches et on fait des choses peut-être d'abord un peu simples, accessibles, qui nous motivent, et puis après on s'attaquera peut-être à d'autres projets un peu plus ambitieux.
On y reviendra tout à l'heure à ces solutions, François.
Oui, peut-être Pierre, plus précisément, tu disais que tu es aussi élu à la communauté de communes Gorges-Côte-Cévennes. Ce que je voulais savoir, c'est par exemple dans tout ce qui est les nouveaux projets d'aménagement, par exemple, est-ce que ces questions de changement climatique, c'est aujourd'hui suffisamment pris en compte selon toi, pas assez, ou est-ce que si, au contraire, les élus se sont vraiment emparés de cette question?
Mais comme je l'ai dit en introduction, j'ai l'impression qu'on n'attaque pas un sujet ou on ne prend pas une décision en disant on va le faire par rapport au changement climatique. On va le faire aussi parce qu'on est un peu garant aussi des financements publics et qu'on va du coup isoler des bâtiments. Donc c'est vrai que ça va économiser peut-être du fuel, ou on va passer sur de la biomasse. Mais l'entrée, ce sera gérer les finances publiques. La rénovation de l'éclairage public aussi est un exemple. Donc on rénove les ampoules, elles consomment moins, on les éteint la moitié du temps, donc on peut réduire significativement l'empreinte. Mais on l'a fait, pour l'éclairage, c'est aussi pour la biodiversité, pour la réserve de ciel étoilé, mais le moteur, je pense que c'était au départ quand même les finances publiques.
D'accord, ça va permettre d'introduire le dernier sujet de ce plateau. Justement, le réchauffement climatique, ça devrait être notre enjeu sociétal numéro un, notre priorité. Ou pas, on va pouvoir en discuter. Hein. Mais oui, effectivement, on voulait parler un petit peu maintenant, poser la question comment on vit avec le changement climatique, parce qu'on voit quand même qu'il est présent, on voit que c'est un phénomène qui va s'accentuer. Comment on vit avec ça? On voit chez nos jeunes particulièrement, mais pas que chez les jeunes aussi, se développer ce qu'on appelle le phénomène d'éco-anxiété. Il y a des parents qui sont parmi nous sur ce plateau. Et effectivement, la question qu'on avait envie de poser, c'est comment on vit avec ça?
Ouais.
Ça laisse sans voix.
Ouais. Non, Sandrine, toi qui a des enfants et surtout aussi qui est dans l'éducation à l'environnement, comment on vit avec ça? Comment on fait, en fait? Pardon.
Oui, alors en plus, moi, j'ai... dans les années, enfin il y a longtemps, dans mes études, j'ai fait une maîtrise de climatologie où j'ai étudié scientifiquement l'augmentation du climat, des températures, des précipitations, etc., en faisant statistiquement des calculs et en ayant à ce moment-là, je me souviens très bien, pas une conscience concrète. Enfin, on parlait réchauffement climatique. Mais en fait, il va faire plus chaud. Enfin, on n'avait pas du tout de conscience de ce que c'est d'avoir comme un impact sur tout le reste, quoi. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, la biodiversité, si elle est d'extinction de nombreuses espèces, c'est pas lié au réchauffement climatique principalement. C'est lié à la manière dont la société occidentale elle impose son modèle sur la planète. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut, par rapport au réchauffement climatique, en fait, on peut essayer d'imaginer quel autre modèle, comment on construit autre chose, en fait. Et je pense que les jeunes qui arrivent à sortir de l'éco-anxiété aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont dans l'espoir, dans la construction, même pas seulement l'espoir, dans la construction d'un autre modèle. Enfin, un avion propre, ça emmènera toujours des touristes... dans d'autres pays qui vont utiliser les ressources locales. Moi, je suis jamais allée, mais dans certains pays où il y a des problématiques d'eau, où l'eau va vers les hôtels 4 étoiles plutôt que vers la population, on est bien d'accord que c'est pas parce que l'avion est propre qu'on va réussir à résoudre le problème. Donc après, ici, on peut avoir aussi cette question-là du modèle dont on a envie. Je me dis 75-76 000 habitants, on pourrait peut-être être un peu plus nombreux sans avoir trop d'impact, mais combien vraiment? Et est-ce qu'on peut aussi se dire qu'on accueille autant de touristes? Même si vraiment, je sais que le territoire est tel qu'il est aujourd'hui, avec ce modèle économique-là, mais qu'est-ce qu'on veut comme modèle et est-ce qu'on doit continuer à se développer économiquement plutôt que de développer le bien-être, la santé, etc.
Baptiste.
Bon, ouais, moi je veux bien rebondir. Alors je sors complètement, j'enlève ma casquette de forestier là, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que en tant que jeune parent aussi, on est vite face à ce phénomène d'éco-anxiété. Et comme le disait Sandrine, je pense que la meilleure façon de pas se laisser bouffer par ça, c'est d'être actif. En fait, l'action est le meilleur remède face à l'anxiété. Si nos actes sont en cohérence avec nos inquiétudes, on est moins inquiet. Et alors c'est tout bête, mais c'est un peu. On pourrait avoir le réflexe inverse de se dire, pour pas être éco-anxieux, je me mets des œillères et je fais comme si ça n'existait pas. Moi, j'ai tendance à penser qu'au contraire, c'est en l'ayant en permanence en tête et en le réfléchissant, alors en faisant nos courses, à chaque fois qu'on achète quelque chose, qu'on se déplace, etc., si on se pose la question de dire comment je peux réduire cet impact, même s'il est... C'est une goutte d'eau dans une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Mais si on le fait en cohérence avec nous-mêmes et en accord avec ses principes, au final, ça permet d'atténuer un peu la chose.
Il nous reste quelques minutes pour ce plateau. Et Bruno, comme tu t'en vas et que tu seras pas avec nous cet après-midi, à toi la parole et la conclusion de ce premier plateau. En tout cas, sur cette question des cons, c'était.
Oui, enfin moi je voulais apporter un témoignage parce que je travaille beaucoup avec l'enseignement agricole et donc et il y a beaucoup d'effervescence autour de ces questions-là dans l'enseignement agricole et je pense notamment à des échanges avec un enseignant prof de socioculturel qui a travaillé avec ses élèves sur le changement climatique depuis pas mal d'années et qui au début avait des élèves qui ressortaient déprimés de son cours et ça lui allait pas du tout effectivement. Et en fait l'analyse qu'il a fait puis que d'autres ont fait, c'est effectivement comme vous disiez, c'est-à-dire le fait de, au-delà du constat, passer vite dans l'action, c'est vrai, c'est aussi se rendre compte qu'on a du pouvoir aussi sur les choses. Et le collectif, c'est-à-dire il y a aussi ça, c'est-à-dire le fait que l'action, ça soit ensemble. Et là, on transforme quelque chose qui est du registre de l'anxiété en désir d'agir collectivement et en conscience du pouvoir qu'on peut avoir sur les choses. Et j'ai trouvé ça, enfin surtout la manière dont il l'a porté, enfin moi ça m'avait vraiment convaincu quand il m'en a parlé. Et je pense qu'effectivement c'est les bons leviers.
Ben voilà, en tout cas pour une première, quelqu'un veut réagir? Michel.
Oui, moi je dirais que simplement, il ne faut pas tout attendre des élus. Les élus légifèrent, mais c'est toujours à la remorque en fait de la société civile. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont à la base qui peuvent montrer un peu les voies possibles et montrer l'exemple pour amener en fait à un changement de comportement collectif. Hein. Donc ça passe par l'individu hein, déjà. Et à partir de là, sur chaque point où on peut jouer, hein, je composte, je limite mes déplacements, je fais ce que je peux au point de vue énergétique pour être indépendant, voilà. C'est le moyen en fait de faire prendre conscience qu'il y a d'autres voies possibles.
Belle introduction pour le plateau de cet après-midi. On va rentrer dans le concret justement. On prend une pause et on revient à 14h. On rentrera directement dans la grosse question: comment engager la transition écologique. On sera en visio pour commencer ce plateau cet après-midi avec Marion Rivet pour le réseau Sortir du nucléaire et tous nos invités ici, sauf Bruno qui nous quitte. Merci beaucoup Bruno. À tout à l'heure en direct sur Radio Bartas, Télédrail. Bisous.
Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Bienvenue sur le plateau consacré au réchauffement climatique.
Sur Radio Bartas, 107 FM.
Et sur Télédrail.
Et ça va chauffer.